Très chers amis de la FADA, bonsoir à vous et bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres de la démocratie scolaire avec un sujet d'actualité, l'élection du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Vous avez observé, voire entendu parler des tensions survenues pendant le processus électoral. Dans notre FADA d'hier, notre collègue Fanta Chamsou et nos invités vous ont parlé des causes des tensions en fin de mandat des comités directeurs de l'Union des scolaires nigériens. Aujourd'hui, avec les mêmes invités, nous posons une question centrale dans la FADA. Comment assurer une mise en place pacifique des comités directeurs de l'USN? Préparez-vous pour un débat d'idées avec nos trois panélistes principaux, notamment le secrétaire chargé à la presse du comité directeur de l'USN actuel, fraîchement élu d'ailleurs, il s'agit du camarade Souley Talata. Nous avons également la présence de l'ancien cadre, un ancien dirigeant du comité directeur de l'USN en la personne de Anas Jibril. Bienvenue dans notre FADA d'aujourd'hui.
Merci.
Camarade SCP Souley Talata, bienvenue dans notre FADA d'aujourd'hui.
Merci.
Et pour finir avec les invités, nous avons avec nous le camarade Oumarou Moussa Rabihou. Il est étudiant en troisième année au département de sociologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Eh bien, chers amis, jeunes de la FADA, notre FADA est bien installée au sein du siège de l'ISN et le thé de la FADA est déjà bien posé. Au micro, je suis Ali Moukela Ousseni et le magicien de la FADA, il s'agit bien de Kader Tiambiono qui assure au niveau de la technique. Chers amis jeunes, restez à l'écoute pour nos rubriques spéciales, la rubrique rose et notre chronique captivante. Dans la première partie de notre émission, je vous propose d'aborder les dispositions électorales de l'USN. Rappelons d'abord que l'Union des scolaires nigériens USN est une structure syndicale qui défend les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des scolaires nigériens. Cette structure syndicale scolaire est dirigée par un comité directeur communément appelé C2USN, mis en place chaque 2 ans par les différentes sections qui composent la dite structure. Ces dernières années, des conflits entre les scolaires entourent la mise en place du CDUSN. Ces crises remettent en cause l'unité et la cohésion au sein de l'USN. Nous commençons avec notre ancien dirigeant du comité directeur USN, à la personne de Anas Jibril. Alors, Anas Jibril, que prévoient les statuts et règlements de l'USN concernant le processus électoral?
Merci bien, merci pour cette opportunité. Je crois que les textes de l'ISN sont clairs. À l'ISN, vous avez 4 catégories de sections. Vous avez ce qu'on appelle les sections écoles professionnelles, que vous avez dans les 8 régions. Vous avez les sections lycées et collèges, que vous avez dans les 8 régions et les différents départements dans lesquels vous avez un lycée plein. Ça devient une section. Donc ça fait les 2 catégories de sections. La 3e catégorie de sections, c'est les sections universitaires. Et la 4e catégorie de sections, c'est des sections à l'international. Les Nigériens se trouvant dans un pays donné au niveau international qui sont des scolaires peuvent former une section. Voilà les 4 catégories de sections que vous avez et c'est elles qui viennent pour l'élection d'un comité directeur de l'ISN. Maintenant, ces sections-là sont mises en place avant le congrès avec un PV. Donc, au fait, on n'improvise pas une section. Ça veut dire que quand on va au congrès, on sait combien de sections on a par région et dans quel pays au monde on a des représentants des scolaires nigériens. Et dans quel pays on a la disponibilité de ceux qui vont se déplacer. Maintenant, à partir de cet instant, vous avez ici l'électorat, les personnes qui sont susceptibles à voter. Donc, c'est celles-là que vous allez convier à l'élection. Si elles viennent, aucun problème ne se pose. L'ancien comité directeur sort, on met en place la table des sciences. C'est-à-dire que c'est l'actuel comité directeur qui quitte, qui met en place une table des sciences avec le vote des différentes sections. C'est la table des sciences maintenant qui conduit le congrès. Et maintenant, c'est les sections qui ont le mot à dire. Si cette étape n'est pas brûlée et respectée, vous n'aurez aucune crise, aucun problème au niveau de l'ISN. Le second élément qui cause des problèmes, c'est quoi? C'est le fait que la plupart de ceux qui cherchent à aspirer, à briguer le mandat à l'ISN, ce sont des personnes qui, quelque part, cherchent le financement. Parce que ces derniers, effectivement, c'est ce qui fait la crise. Toute structure qui est là, que ce soit le pouvoir en place ou les opposants, chacun cherche à identifier son candidat. Et ça devient encore un couloir de commerce pour éventuellement certains candidats qui d'autres annoncent qu'ils sont candidats à tel poste pour chercher les barres de fonds. Quand ils ont le financement, pour eux, ils sont déjà élus à partir de cet instant. Ils ne vont même pas aller aux élections, ils ont déjà de l'argent. Il y en a d'autres qui cherchent de l'argent qu'ils vont donner aux sections qui vont les voter, moyennant quelques sous. Et le problème qui se pose, c'est pour ça qu'il faut pousser les réflexions. Les sections, surtout des lycées et collèges, dans des zones reculées où la personne ne maîtrise absolument rien, on la mobilise, elle vient au congrès, elle ne comprend pas ce qui se passe, on lui tend de l'argent, elle vote en fonction de ce qu'on lui a donné, non pas en fonction du projet ou du programme de celui qui éventuellement va être dirigeant de l'ISN. C'est ça, au fait, les difficultés qui font que on a des crises, mais quand on suit la procédure normale, on n'aura pas de problème.
Alors, camarade Soule Talata, vous êtes le secrétaire chargé à la presse du comité directeur de l'USN, fraîchement élu. Alors, dites-nous, les acteurs concernés ont-ils respecté les dispositions électorales de l'USN pendant le processus 2023-2024?
Merci beaucoup. Pour ce qui est des respects des dispositions réglementaires, je vais vous faire une confidence. J'ai participé au congrès de Tawa en 2013, à celui d'Emuria en 2015, à celui d'Agadez en 2017, à celui de Bermo en 2020 et à celui là qui venait d'être organisé ici même à Niamey en 2024, donc j'allais dire. Je n'ai jamais participé à un congrès où les dispositions réglementaires ont été scrupuleusement respectées. Jamais. Pour l'expérience que moi j'ai vécue.
Mais pourquoi ?
Parce que, simplement, les acteurs qui animent le cadre et les acteurs qui souhaitent être des dirigeants de ce cadre, chacun en ce qui le concerne, va toujours essayer de faire des choses.
C'est quoi faire ces prévaloir choses-là? On aimerait bien avec nos amis de la FADA qui nous écoutent, savoir concrètement
c'est
quoi ces choses.
J'en viens pour pouvoir faire prévaloir son intérêt.
Okay.
Quand tu as un mandat, ce que tu fais souvent, quand tu constates qu'au niveau de telle section départementale, le secrétaire général de cette section, quand il constate qu'il a un minimum, c'est-à-dire qu'il a la capacité de raisonner de lui-même, c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise relative des textes. Tu fais tout, lorsque son mandat est à terme, tu envoies une mission pour le renouveler. Mais par contre, lorsque tu as un secrétaire général d'un département dont tu estimes que celui-là, il n'est qu'à ta merci, il ne fait que ce que tu lui dictes de faire, même quand son mandat est fini, tu les laisses sans les renouveler. Donc, de part et d'autre, tous les acteurs syndicaux font que les textes ne sont pas respectés, que ce soit au niveau de la mise en place, que ce soit au niveau de la validation des candidatures, que ce soit même au niveau des instances suprêmes de l'organisation. Il y a vraiment des violations des textes qui s'observent. Et c'est ces violations-là des textes qui font que il n'y a jamais un congrès où, quand on part, on a la garantie que le congrès va se tenir en toute sérénité.
Alors, on revient à notre camarade Oumar Moussa Rabiou. Je rappelle qu'il est étudiant en troisième année au département de sociologie. Alors, camarade Rabiou, vous avez entendu un rappel des dispositions électorales, des règlements et statuts de l'USN. Selon vous, comment amener tous les acteurs à éviter le glissement de mandat 3 mois et plus?
Merci. Pour un peu retourner dans le passé, à chaque fois, le seul endroit dans lequel une élection est faite de manière démocratique où un étudiant, une voix, c'est dans les universités. Les élections qui se font au niveau des sections régionales, c'est des élections qui se font à huis clos. Souvent, avant même la tenue de la convocation, même du renouvellement, les gens ont déjà l'idée de l'équipe qui sera consacrée. Et tout cela dénote déjà, quelque part, la même mise de certains syndicalistes, comme il l'a si bien dit, qui inspirent diriger l'organisation. Aujourd'hui, quand vous prenez une section départementale dans laquelle est organisée une élection, au lieu que cette élection se passe de manière démocratique devant tout le monde, c'est quelque chose qui se fait sur les papiers. Quand tu viens étant un secrétaire général d'une école qui est venu voter ou mettre en place une section, tu t'assois devant le président de la table des sciences, sur les papiers, tu dis toi tu votes pour un tel. Mais si toi, étant président de la table des sciences, la personne que le camarade a proposé, sinon a choisi, ne te convient pas, mais tu as le plein droit de changer les croix. De toute évidence, personne ne saura ce que tu es en train de faire sur les papiers. Alors, le dépassement de mandat et le renouvellement de manière désordonnée qui se font au sein de l'organisation aussi sont source de crise au sein de notre organisation. Aujourd'hui, actuellement, il y a beaucoup de secrétaires généraux qui ont fait plus de 5 ans, 6 ans au même poste. Et vous voyez, quand vous dirigez une section comme la section lycéenne et collégienne, à partir d'un an, vous déposez bilan et on consacre une nouvelle équipe. À l'université, pareil. Au niveau des sections professionnelles aussi, pareil. Mais ce qu'aujourd'hui, le dépassement de mandat est devenu quelque part une pratique au sein de l'organisation. Et ce sont des camarades qui continuent à maintenir cette pratique parce que quelque part, si ça donne au renouvellement de ces sections-là, ça peut les blesser. Il y a beaucoup aujourd'hui des secrétaires généraux qui dirigent toujours des sections qui ne sont même pas des élèves, qui ne sont même pas des scolaires. Il y en a beaucoup. Pour ne pas vraiment rentrer dans les détails, il y a tellement beaucoup de choses que nous ne voulons vraiment pas parler parce que ça, c'est exposer notre cadre organisationnel.
Alors, camarade SCP, vous avez entendu l'interpellation du camarade Oumarou Moussa Rabiou. Alors, qu'en pensez-vous de ce qu'il vient de dire?
Je crois que rien que ce cadre-là qui est créé fait partie intégrante des visions que notre comité directeur a. Parce que lorsque un dirigeant accepte de venir s'asseoir, participer à un débat qui peut l'exposer, vous comprenez aisément que ce dirigeant a la volonté de pouvoir solutionner les problèmes. Notre ambition, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est de pouvoir créer les conditions pour qu'à notre niveau, nous assumons nos responsabilités, nous assumons notre responsabilité par rapport à ce qui nous incombe. Maintenant, pour ce qui est des autres situations auxquelles nous ne pouvons pas contrôler, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper ou que nous ne pouvons pas contrôler, nous souhaiterons à ce que l'ensemble des scolaires nigériens puissent se souder et se mettre debout comme un seul homme pour accompagner le comité directeur pour mettre fin à ce genre de pratiques qui n'honorent pas l'organisation.
Alors, l'ancien cadre Anas, quel est votre point de vue par rapport à leur, ce qu'ils viennent de proposer?
En fait, moi je crois que tout ce qu'ils disent sont réels. Le seul problème, c'est sur quoi j'insiste. Quand vous avez des textes qui régissent votre fonctionnement, c'est que toutes ces failles, c'est parce que quelque part les textes ne sont pas actuels. Quand vous voyez qu'un comité directeur sortant renouvelle les sections une semaine, deux semaines avant un congrès, c'est ça qu'il faut noter en tant que dirigeant, pour que éventuellement vous puissiez mettre des garde-fous dans les textes, pour qu'un comité directeur, à la fin de son mandat, qu'il n'ait plus la possibilité de renouveler les sections. Voilà ce que je voulais dire succinctement.
Chers amis jeunes de la FADA, avant de continuer, nous allons prendre notre pause pour suivre la rubrique rose de la FADA, une rubrique qui est proposée par les demoiselles du studio Kalangou.
Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangou, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être, à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Hello, nous voici de retour après cette petite étude hier sur la connaissance de la banane plantain que j'espère que vous avez gardé. Passons aux différentes façons de la cuisiner. Alors pour commencer, je tenais à vous faire redécouvrir la banane plantain, un fruit génial qui mérite vraiment qu'on le découvre et qu'on lui donne une place de choix dans la cuisine. Pour rappel, sachez que la banane jaune, outre de nous rassasier pleinement et d'être sans gluten, possède un apport nutritionnel très intéressant. Il existe des centaines de recettes à la base ou contenant de la banane fruit, mais je ne vais citer que quelques-unes et qui sont très célèbres et très typiques de certains pays de la sous-région. Déjà, nous commençons par l'aloko, banane plantain tranchée et frite, ça c'est en Côte d'Ivoire. Cloco, banane bien mûre, pilée, mélangée à la farine, puis frite, toujours en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi parler de cette recette qui est le foutou de banane ou foufou de banane. Mélanger la banane plantain, mûre et du manioc bouilli, puis piler et avoir une bonne pâte bien accompagnée d'une bonne sauce. Nous avons aussi l'akpissi, recette ivoirienne à la base d'aubergines africaines, de poissons fumés et d'autres légumes dont la banane plantain, le manioc. Et maintenant, à vos claviers, vous allez nous dire en commentaire sur la page du studio Kalangu, qu'est-ce que vous pensez de ce fruit et légumes.
Dans la rubrique santé d'aujourd'hui, on va parler des vêtements de fitness pour hommes ou femmes qui sont conçus avec des fibres synthétiques telles que le polyester ou le polyamide, etc. Ces matières sont totalement adaptées à des sports à haute intensité comme le circuit training et le fitness. Vous préférez les activités comme le yoga ou la gym douce, tournez-vous vers un ensemble de sports en coton pour plus de confort. En matière de coupe, vous avez le choix entre un modèle ample ou près du corps. Pour éviter les frottements et être le plus à l'aise possible, nous vous conseillons d'opter pour la seconde option. Maintenant que vous avez déterminé la matière et la coupe, jetez un coup d'œil sur les caractéristiques techniques de votre ensemble de sport, homme ou femme. La respirabilité. Vous avez tendance à beaucoup transpirer. L'idéal est de porter un vêtement de sport qui absorbe et évacue rapidement l'humidité. Pensez au legging et au débardeur avec empiècement aéré si la pratique est intense. Si vous faites du cardio fitness en salle, misez sur une tenue composée d'un legging et d'un t-shirt, éventuellement d'une veste. Pour les addicts du sport en extérieur, faites simplement preuve de bon sens. S'il fait chaud, privilégiez une tenue fitness peu couvrante, un débardeur ou simplement une brassière et un t-shirt feront l'affaire. Sami, c'est tout pour l'espace santé de cette rubrique rose. On se dit à la semaine prochaine.
Bye bye.
Amis jeunes de la FADA, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la FADA. Notre deuxième partie place son projecteur sur le rôle de la plateforme revendicative dans la mise en place pacifique des comités directeurs de l'USN. Et nous allons nous tourner vers l'ancien cadre. Il s'agit bien de Anas Jibril. Alors, expliquez-nous comment on met en place la plateforme revendicative de l'USN.
Merci bien. La plateforme revendicative de l'ISN, en fait, elle est élaborée à partir du congrès. C'est-à-dire que quand les scolaires se retrouvent en congrès, c'est en ce moment-là, vous avez les différentes commissions qui sont mises en place avant l'élection du nouveau comité directeur. Et parmi les commissions, vous avez la commission revendication. Cette commission revendication, en son sein, vous avez des lycées et collèges qui sont représentés, vous avez des écoles professionnelles qui sont représentées, vous avez des universités, vous avez les sections à l'international. Donc toutes ces structures, ces catégories de sections que je vous ai citées, elles connaissent leurs problèmes. Maintenant, toutes ces sections font des propositions au niveau de la commission revendication. Et ce sont ces propositions-là qui sont cumulées. On réunit les différentes revendications de part et d'autre qui concernent les lycées et collèges, qui concernent les écoles professionnelles, qui concernent les universités et qui concernent les sections à l'international. Et c'est à base de ça, vous avez une plateforme revendicative qui va être remise au nouveau comité directeur installé. Donc ce n'est pas une plateforme revendicative rédigée par le CD installé, mais elle est rédigée en tenant compte des sensibilités des sections existantes à l'ISN. Voilà comment est-ce que ça se fait l'élaboration de la plateforme au niveau du comité directeur de l'ISN.
D'accord. Alors, camarade, secrétaire chargé à la presse du comité directeur de l'ISN fraîchement élu, vous venez d'écouter l'ancien cadre. Vos réactions aux propos de l'ancien cadre?
Oui, effectivement, le camarade ancien cadre a tout à fait raison. Il n'a fait que rappeler une disposition réglementaire. La plateforme revendicative est élaborée en congrès. La commission revendication, c'est elle qui est chargée de prendre en compte les différentes revendications à long, à court et à moyen terme des différentes catégories des sections, comme il a eu à le dire tout à l'heure, pour ce qui est des sections lycéennes collégiennes, des sections universitaires, des sections des écoles professionnelles et des sections de l'extérieur. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que cette plateforme revendicative est soumise à un danger. Le danger auquel la plateforme revendicative est soumise, ce qu'elle doit être votée aussi par les sections. Et c'est pour cela que je vais vous rappeler une chose. Au congrès d'Agadez de 2017, les travaux de la commission revendication ont été rejetés par la majorité des sections. Ce qui fait que le comité directeur de l'ISN qui a été installé au niveau du congrès d'Agadez était un comité directeur qui, en réalité, n'a pas de compte à rendre aux scolaires nigériens parce que lui, il n'a même pas de plateforme éducative. Et ça, c'est ce qu'avait dit le camarade secrétaire général. Il faut que nous contextualisons nos textes parce que vous ne pouvez pas prendre l'avenir de l'organisation et le soumettre à chaque fois à des votes.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que la plateforme revendicative a été catégoriquement rejetée. Mais pourquoi elle a été...
Elle a été rejetée tout simplement parce que, quelque part, les secrétaires généraux des différents départements, dans leur écrasante majorité, ne maîtrisent pas, comme ça se doit, les textes qui régissent le fonctionnement du cadre organisationnel.
D'accord, je vous garde toujours au micro. Est-ce que cette année, les travaux de la commission revendication ont été rejetés ou bien ont été adoptés?
Cette année, par rapport aux différentes commissions, il a été réfléchi de commun accord avec les sections et les participants au congrès que pour ce qui est des travaux de commission, qu'il va y avoir convocation d'un conseil syndical qui va traiter exclusivement de ces questions-là.
D'accord. On revient à notre ancien cadre du comité directeur. Êtes-vous d'accord avec sa proposition?
Je crois que, comme on l'a dit, à des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Le plus souvent, commission texte, commission revendication, c'est un congrès, on le fait. Vous avez vu qu'il y avait une crise avec deux bords. Il a fallu que les anciens cadres aient été intervenus de l'association islamique, en tout cas beaucoup, pour qu'on ait une solution définitive et demander aux deux parties de se retrouver pour une issue de sortie de crise. À partir du moment où ils sont installés, et ayant constaté que toutes ces crises sont liées à un certain nombre de faiblesses, donc naturellement pour eux, pour régler et solutionner ces difficultés, s'ils trouvent judicieux la convocation d'un conseil général qui nécessiterait la mise en place de ces commissions-là, ça ne peut être qu'une pratique extraordinaire qu'il faut apprécier pour la satisfaction des besoins des scolaires.
D'accord. Alors, on va aller avec notre camarade étudiant. Voilà, en tant que scolaire, qu'entendez-vous concrètement de la plateforme revendicative de l'USN pendant l'actuel mandat?
La première chose, parce qu'il y en a tellement beaucoup, la première chose sur laquelle l'actuel comité directeur doit mettre l'accent, c'est d'abord la formation syndicale des militants et militantes, parce que ça manque énormément. Beaucoup de vidéos de nos camarades qui sont souvent des secrétaires généraux des écoles, des sections lycéennes et collégiennes, qui quand ils se prononcent, qu'ils font face à des médias, souvent on a du mal même à les comprendre. Et ça handicape l'organisation. Imaginez une organisation qui est censée donner le minimum de formation à ses militants, aujourd'hui tend à une formation de la médiocrité, sinon à la promotion de la médiocrité. Parce que tant que la formation syndicale va manquer, on va toujours assister à des problèmes.
Exactement, on va en venir. Cher ami de la FADA, marquons une pause musicale pour écouter l'artiste que vous allez nous proposer. Vous préférez quelle musique d'ailleurs?
Je propose Ismarty, le chapeau du roi.
Ismarty, le chapeau du roi. On écoute et on revient juste après.
Déjà suce le son de la succession. Le village avait changé de visage. Rien du futur n'annonçait un bon présage. Des notables aux griots jusqu'aux sages. Tous étaient devenus de nouveaux personnages. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre. Pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre. Pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Petit à petit, comme un effet magique, chaque notable découvrait sa différence ethnique. À chaque enfant, on comptait l'ingratitude de la race venant du nord ou de ceux venant du sud. Entre sages et notables, deux camps, les frères, les fils et les cousins du roi, deux camps. Entre autochtones du village de camps.
C'était là la pause musicale de la FADA, tout en espérant que vous avez aimé cette chanson de Smarty, intitulée « Le chapeau du roi ». À présent, poursuivons nos échanges avec cette fois-ci un focus sur le comité de suivi USN. Alors, on va se tourner cette fois-ci vers le secrétaire chargé à la presse du comité directeur de l'USN. Je rappelle qu'il est fraîchement installé. Camarade SCP, dites-nous, quel est le rôle du CDUSN dans la mise en œuvre de la plateforme revendicative de l'USN?
Voilà, merci beaucoup. Je voudrais avant faire une clarification par rapport au comité de suivi. Je n'ai jamais vu une organisation qui est mieux organisée d'un point de vue texte plus que l'USN. C'est en ce sens que quand vous prenez, les revendications sont échelonnées. Le comité directeur ne peut pas inscrire dans sa plateforme revendicative ou faire de ça une revendication le fait que, par exemple, une ampoule ne marche pas dans une salle ou un ventilateur ou un climatiseur. Il y a ce qu'on appelle les sections, il y a les sous-sections, il y a les délégations au niveau des universités qui, elles aussi, ont une responsabilité. Maintenant, quand elle fait le suivi et qu'elle constate qu'il y a un point qui dépasse son champ de compétences, automatiquement, elle les transmet au niveau de ce qu'on appelle la commission des affaires académiques qui elle-même les transmet au comité exécutif qui est la section de l'université. Maintenant, le comité exécutif de l'université, lorsqu'il constate qu'en réalité ce problème dépasse son champ de compétences, c'est en ce moment-là seulement qu'il peut les transmettre au niveau central, au niveau du comité directeur de l'ESN. Donc voilà la petite précision que je voudrais apporter pour que nous ne faisons pas d'amalgame. Maintenant, pour ce qui est du comité de suivi, lorsque le congrès soumet la plateforme revendicative de l'ensemble des scolaires nigériens qui étudient au Niger ou à l'extérieur du pays, le comité directeur de l'USN met en place un comité de suivi permanent qui est chargé de rencontrer avec, à sa tête, un membre du comité directeur de l'USN qui est chargé de faire le suivi régulier au niveau des autorités concernées. Si c'est un problème qui touche, par exemple, les écoles ou les instituts de l'enseignement professionnel et technique. Donc ce comité-là s'oriente toujours au niveau du ministère de l'enseignement professionnel et technique pour pouvoir faire les suivis jusqu'à aboutir à satisfaction. Et à chaque fois que ce comité va se rendre compte de l'incapacité de ce ministère à pouvoir gérer cette revendication, il rend compte automatiquement au comité directeur qui, à travers son secrétaire général, va aller au niveau supérieur. Donc, il peut aller au niveau du Premier ministre ou même auprès du Président de la République que le Président de la République prenne des mesures pour pouvoir solutionner à ces problèmes. Donc le suivi, il s'est fait de manière constante et régulière au sein de l'État.
D'accord. Alors on va revenir à l'ancien cadre avec un peu de recul. Comment évaluer le rôle du comité de suivi pendant votre mandat?
Peut-être qu'ils ont parlé du comité de suivi, mais moi je dirais beaucoup plus que le vrai comité de suivi, c'est le comité directeur de l'ISN qui a eu un mandat au Congrès de suivre la plateforme revendicative. Au-delà de ça, c'est que les textes ont prévu encore le suivi de façon régulière durant les deux années. Après le 27 et 28 passé leur élection, il doit avoir un an après un conseil général. Et avant ça, il doit avoir encore un conseil syndical, le congé de Pâques ou Noël. Donc le congé de Pâques ou Noël où il y a le conseil syndical, ou l'année où il y aura le conseil général, tout ça là c'est pour voir à quel niveau d'exécution nous en sommes sur la plateforme revendicative issue du Congrès en fonction de la façon dont ça s'oriente au Conseil syndical. Il peut avoir des recommandations. Au Conseil général, il peut avoir aussi des remontrances et des recommandations, des orientations à donner par rapport au comité directeur, par rapport à sa démarche, en tenant compte des failles qui ont fait en sorte que pendant un an, on vous a donné une plateforme revendicative. Où est-ce que nous en sommes? Quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Et là, le Conseil général fait en sorte que les difficultés qu'il y en a, y réfléchir pour voir et orienter davantage le comité directeur.
Alors, on va aller avec notre ami étudiant. Il s'agit bien de Oumar Moussa Rabiou. Alors, si vous siégez au comité de suivi, comment pourriez-vous vous impliquer pour la réussite d'une mise en place pacifique du comité directeur de l'ISN?
Par rapport à cette question, moi, je pense que si vous me le permettez, bien sûr, j'aimerais citer une citation qui me plaît tant de Amadou Ampateba, qui dit que la vie d'aujourd'hui est comme une usine. La pièce, qu'elle soit grosse ou petite, elle a une responsabilité qu'elle joue qui conditionne la bonne marche de l'usine. Pour dire que le rôle de tout un chacun dans une action, il est primordial. Quand tout le monde aura à comprendre son rôle réellement et la mission qui lui a été assignée, je pense que le travail qu'il aura à effectuer, ça serait un travail combattant. Si, par exemple, on me dit, je fais partie du comité de suivi de la plateforme de revendication, je me dis que déjà, quelque part, il y a une responsabilité qui est en moi. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité de tous les scolaires de manière générale. Et que, quelque part, il y a eu une confiance qui a été portée à ma modeste personne. Donc, ce qui est attendu de moi, c'est de faire en sorte que, même si on n'arrivera pas à satisfaire tous les problèmes, sinon à résoudre tous les problèmes qui sont sur la plateforme revendicative, c'est d'essayer du mieux que nous pouvons, au moins à résoudre les essentiels, sinon les plus importants. Donc moi, je pense que parmi ces stratégies, il faut miser beaucoup sur la communication. Il faut aussi prendre les réseaux sociaux comme une arme de dénonciation. Mais l'usage doit être responsable.
L'usage doit être responsable. Avant de clôturer, nous allons d'abord écouter la chronique de la FADA qui est rendue par moi-même. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, dimanche, nous poursuivons notre réflexion sur la campagne agro-pastorale au Niger. Alors hier, nous avons vu quelques problèmes qui gangrènent le secteur de l'élevage au Niger. Eh bien, aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir comment y faire face. Malgré ces défis, les Nigériens sont résilients et continuent de s'adapter aux conditions changeantes. Des organisations locales et internationales travaillent en étroite collaboration pour promouvoir des méthodes d'élevage améliorer. Des organisations non gouvernementales, ONG, telles que l'Union mondiale pour la nature, UICN, et la FAO collaborent avec les communautés rurales pour promouvoir des pratiques agricoles et pastorales durables, améliorant ainsi les conditions de vie des populations locales. C'est pourquoi, de nos jours, l'on constate que de nombreuses jeunes filles au Niger se lancent dans l'élevage de volailles ou la production de produits laitiers, contribuant ainsi à l'autonomisation économique des femmes rurales. Ces exemples illustrent la diversité des acteurs et des pratiques dans le secteur agro-pastoral au Niger qui joue un rôle vital dans la sécurité alimentaire et l'économie rurale du pays. En conclusion, la campagne agro-pastorale au Niger est une histoire d'effort et de détermination face à l'adversité. Elle incarne la richesse de la culture nigérienne et son engagement envers un avenir plus prospère. En soutenant ses efforts et en investissant dans l'élevage, nous pouvons contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la vie des Nigériens. C'est tout pour cette chronique sur la campagne agro-pastorale au Niger. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Amis jeunes de la FADA, nous sommes à la fin de notre FADA d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie du camarade secrétaire chargé à la presse fraîchement élu et mis en place. Il s'agit du camarade Souley Talata. Nous étions également en compagnie de l'ancien secrétaire général du comité directeur de l'USN, à la personne de Anas Jibril. Nous étions également en compagnie de Oumarou Moussa Rabiou. Il est étudiant inscrit en troisième année au département de sociologie. Alors, chers camarades, anciens cadres, un mot pour dire bye-bye à nos amis de la FADA qui nous écoutent.
C'est d'abord remercier le studio Kalangou, remercier aussi les auditeurs et les scolaires qui nous écoutent, de dire que la priorité sur le banc, on apprend pour en perspective être destiné à gérer une nation.
Camarade SCP, est-ce que vous avez une femme parmi vous?
Tous les militants de l'USN ont le même droit et le même devoir. Donc la même place ou le même rôle que peut jouer un garçon, les textes confèrent à la camarade fille d'avoir le même rôle. Dans le comité directeur qui venait d'être élu récemment et installé, est-ce qu'il y a une camarade fille? Je répondrai non, tout simplement parce que non seulement les camarades filles n'ont pas candidaté, mais il y a un aspect qui est extrêmement important dont je voudrais rappeler. Vous prenez au niveau du conseil général de Colo, il y a une recommandation qui a été faite, celle de responsabiliser beaucoup plus les femmes. En ce sens, au congrès de Mria, le 11e congrès statutaire de l'USN, il a été créé la commission des affaires féminines pour responsabiliser davantage les femmes. Donc vraiment, nous sommes en train de nous inscrire dans une logique où nous allons davantage, beaucoup plus responsabiliser les femmes et pourquoi pas au 15e congrès statutaire d'avoir une camarade fille au sein de la structure dirigeante. Je vous remercie.
Voilà, merci infiniment à nos invités. Merci à vous aussi, chers amis jeunes de la FADA. Nous étions ici même au sein du siège de l'USN. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Bye bye.